Bonjour à tous et bonne année 2020. Pour cette première émission de l'année 2020, on va s'intéresser à des histoires. Et pourquoi des histoires ? Bien parce que, comme tous les ans, il est organisé sur le département, un peu partout, par les centres sociaux, une série d'opérations autour du livre et de la lecture qui s'appelle « Graines de lecteurs ». Chaque année, il y a un thème, et cette année, le thème, c'est « Les saisons ». Alors j'ai pensé qu'on pouvait écouter quatre contes de Gilles Vigneault, que l'on connaît plus pour ses chansons, mais qui est aussi un merveilleux conteur. Et il a fait un disque, il y a un petit peu de temps maintenant, un disque qui parle des quatre saisons de Picot. Picot, un petit enfant qu'on va suivre, qui habite au Québec. Le premier conte est un conte de printemps, qui s'appelle Le Pont. C'est l'histoire qui démarre cette série des quatre saisons, au printemps, avec Picot qui va se perdre dans la forêt, qui va faire une rencontre, la rencontre d'un personnage qu'on retrouvera après tout au long des histoires.
Conte du printemps. Le pont. Quand le soleil amorça l'allongement des ombres, Picot s'arrêta net et, s'asseyant sur un gros bouleau mort émergeant de la neige profonde, admit qu'il était perdu. Il lui restait sa pomme et trois biscuits gardés pour l'en-cas du retour. Et puis on ne meurt pas de soif en forêt, surtout dans une saison où toute l'eau du monde a neigé sur les choses, en posant un tapis sous les pas des humains et un toit sur le monde des mulots. Ses pas de 5 ans ne pouvaient pas l'avoir mené plus loin que la rivière aux chiens, dont son père disait souvent « À pas 1000 pas d'ici !» Mais il avait tourné en rond, et il était fatigué, et l'air avait des fraîcheurs soudaines qui laissaient penser gel pour la nuit. Et puis ils vont bien me chercher. Un angelus au loin le rassura soudain, puis laissa le silence qui suivit plus vaste et plus désert. La nuit vint sans prévenir. En mars, même si les jours reprennent du terrain sur les calendriers, quand il a fait grisaille depuis le matin, la nuit ne se désiste pas de la journée, et vers 6 heures, elle n'a plus qu'un petit coup d'épaule à donner pour basculer le jour dans le passé. Debout sur la pointe de son bouleau mort, il força ses yeux à forer dans le gris fer des alentours des tunnels anxieux. Il ne vit pas la lueur tout de suite. Il était déjà occupé à scruter à l'opposé. Quand ses yeux clos de fatigue, pour quelques secondes, s'en souvint. Il la retrouva après une lutte féroce avec la forêt, qui d'une feuille de hêtre, d'une branche, peut cacher toutes les lampes du monde. Il partit si vite vers cette fragile balise qu'il en oublia sa pomme et ses biscuits aux mulots attentifs. Il arriva essoufflé à un endroit où la forêt s'arrêtait devant une espèce de grande clairière blanche, au-delà de laquelle un camp de bois rond avait l'air vivant comme un traîneau. Mais devant lui, une grande tache d'eau noire disait qu'il était bien devant la rivière aux chiens et que la traversée était une autre histoire. Il se mit à crier « Hey !» Un vieil homme sortit vivement et lui répondit aussitôt « Attends, le courant est trop fort ici et la glace est pourrie. Il faut aller prendre le pont !» Et ils marchèrent tous les deux, chacun de son côté de la rivière, jusqu'à un rétrécissement par-dessus lequel un chêne énorme s'était abattu, formant un pont fort praticable. « Tu es chez mon oncle Toby. Comment t'appelles-tu ? » Pico, je me suis perdu. Est-ce que c'est loin chez nous? Non, et je connais ton père. Je l'ai souvent entendu bûcher de l'autre côté. Viens te chauffer, puis on avisera. En quoi? On avisera, on verra quoi faire. On avisa. Et l'on devisa. Pico, remis de sa mésaventure, bavarda volontiers et répondit à toutes les questions, en posa quelques-unes. Apprit que mon oncle Toby vivait seul et ne put savoir de son âge que ceci. Les Iroquois pensent que j'ai 800 lunes. Et moi, je dis souvent, au moins et quelques-unes. Pico ne se fut pas prié pour dire, moi j'ai 6 ans cet été. On calcula tout cela à l'indienne façon. J'aurai bientôt, Pico, autant d'années que toi de lune. Puis, l'heure passa. Ta mère va s'inquiéter. Je vais aller te reconduire. Il faisait nuit et froid. On repassa sur le pont du chêne mort. Aimes-tu mon pont, Pico? Oui. Pas l'air sûr? Bien, c'est que ce n'est pas un vrai pont. Comment? C'est un arbre tombé. Faudrait couper les branches, faire tomber encore un arbre, et puis je ne suis pas de ton avis, Pico. Quand celui-ci suffit à passer la rivière, je ne vois pas pourquoi on irait couper un arbre pour rien, surtout de cet âge-là. Le vent nous a construit un pont, il faut l'en remercier. Le printemps s'occupera du reste. Pico écoutait, en silence, et marchait à côté. Et commençait déjà d'apprendre 1000 choses. Et d'apprendre surtout comme c'est rassurant de marcher la nuit avec un ami sûr. On fut bientôt à la maison. Tu peux remercier Monsieur Toby. C'est mon oncle Toby, dit Pico, établissant par là une parenté nouvelle que d'un commun accord chacun prit pour acquis. Tu peux le remercier, il a de la patience. Le papa de Pico se retenait de le gronder, mais on voyait par le temps ce qu'il pensait de l'escapade. Sa maman, qui était d'une grande douceur, revenait sur son inquiétude. En hiver, mon Pico, tu pouvais te perdre quand on y pense. Je trouvais qu'il est à tort pour sortir. Restez donc à souper, monsieur Toby. L'oncle Toby résiste. Il faut comprendre ici la tentation d'une pareille invitation pour un homme habitué à se faire la cuisine. Ça sera pour une autre fois, madame. Merci beaucoup. Quand on se connaîtra mieux, Pico et moi. Mais Pico, lui, trouvait que les présentations étaient plus que faites, et il n'avait pas tort. On promit de se revoir. Puis, l'oncle Toby repartit vers sa maison d'ermite. Mais il n'était plus seul. Les questions de Pico dansaient dans sa tête, plus nettes que les traces qu'il avait laissées sur la neige, et que le pas plus vif d'un vieil homme rajeuni de 100 lunes refaisait à l'envers. Vint le temps des sucres et de la tire sur la neige, et la terre bientôt ressembla à une grande peau de vache blanche avec des plaques brunes. Puis bientôt, une vache brune avec ici et là une tache de neige que le soleil le plus haut et le vent le plus vivant allaient boire dans la nuit. Et la rivière aux chiens qui charriait les radeaux de l'hiver cassés dans un avril chantant de hâte et de projet. Pico savait par cœur le chemin qui mène chez mon oncle. Et si un jour passait sans qu'il y vînt, l'oncle Toby était d'humeur maussade jusqu'au soir. Le lendemain, c'était « Qu'est-ce que tu faisais hier? Je croyais que tu viendrais. » Hier, hier, je me suis fait un radeau. Quoi? Un radeau? Pourquoi? Pour flotter, mon oncle. Tiens, un radeau. Il s'est fait un radeau. L'oncle avait peine à croire qu'on puisse faire démarrer un projet d'une pareille envergure sans lui. Il est où, ton radeau? Dans le petit haut de la rivière où papa coupe du bois. Je suis allé en couper avec lui. Ah, ça c'est bien. Puis comme ça, on va te voir passer sur ton radeau. Demain, je descends. En as-tu parlé à ton père? Oui, il m'a un peu aidé, mais seulement pour attacher les morceaux que j'avais choisis. Voilà l'oncle rassuré, mais qui se promet bien d'être là et de veiller au grain. En se plaçant de l'autre côté de la rivière, Toby aurait vu sur toute l'aventure, depuis l'embarquement jusqu'à l'accostage, dans l'anse à deux pas de la maison. Le papa de Picot n'en savait pas moins et serait là, surveillant la rive. Il n'y avait rien là de risqué. Vraiment. Cependant, l'oncle Toby éprouva comme l'ombre d'une inquiétude lorsque Picot monta et que le radeau, qui pouvait bien porter 10 picots, s'engagea entre les deux cailloux et piqua, oh, à peine, dans le courant glacé. Picot s'y tenait bien, mais bientôt l'appareil prit de la vitesse, et quand il passa devant la petite crique, on ne sut rien faire qui puisse le retenir. Picot criait, « Mon oncle, attrape-moi, ça va trop vite !» Papa n'était pas loin, mais comptait sur Toby, qui s'en allait vivement vers le pont du vieux chêne, et se hâtait vraiment cette fois, anxieux, même en sachant qu'il ne pouvait pas le dépasser, que la rivière ne creuse nulle part avant le rapide des Saint-Paul, même si le radeau se redressa, arrêté par les branches du chêne jamais émondé encore, et renversa complètement sous la force du courant. Il attrapa Picot, trempé, par un bras et en riant de soulagement aussi, le hissa sur le pont qu'une tempête d'automne avait construit pour ce jour-là. On en parla beaucoup, un petit peu moins peut-être à la maman de Picot, pour que papa et l'oncle Toby ne soient pas trop grondés. À quelques jours de là, quand l'histoire fut toute sèche, Picot vint voir son oncle, et entre le verre de lait et la tasse de thé de 4 heures, il dit soudain, comme pour lui-même, comme celui qui parle ayant bien réfléchi, « Mon oncle, pour les branches de votre pont, j'y ai pensé. J'ai eu de la chance, hein, que personne les aille couper.
Après le printemps, bien entendu l'été, avec une histoire de cerf-volant, on retrouve Picot et l'oncle Toby.
Conte pour l'été, le cerf-volant. Par un midi chargé de soleil et zébré de cigales, Picot sortit de chez lui, bien décidé, comme sont parfois les enfants, à posséder un cerf-volant avant 4 heures, heure où le petit vent se lève sur la rivière et vient balayer un peu de la lourdeur du jour. Descendre la butte, lancer sur l'eau quelques cailloux, faire s'envoler le vieux héron pour respecter les usages, puis filer le long de la rivière jusqu'au pont du Grand Chêne, par le petit chemin bien battu mais presque invisible entre les herbes hautes et les fougères, d'où les lobélies pointent leur tête vermillon, et nous voici en face de chez l'oncle Toby. « Qui est-ce ?» comme s'il ne savait pas depuis le passage du héron. « C'est moi !»« Qui, toi ?»« Picot, bon !» Oh, Picot! Oh, de la visite! Oui. Et de s'extraire de son hamac, un oncle Toby de toute évidence ravi, quoique dérangé, il faut le dire. Dans sa rêverie philosophique préférée, comment laisser tourner la terre avec le minimum d'efforts tout en restant un bon voisin? Quel bon vent t'amène aujourd'hui? L'occasion était trop belle. Justement, mon oncle, c'est à propos du vin. Tu m'intrigues, Picot? Tu m'intrigues? Explique-toi. C'est que, après Pâques, mon oncle, tu m'avais parlé d'un cerf-volant, d'une sorte que tu savais faire en une heure, peut-être. Tu dois te souvenir. Le cerf-volant. Oui, ça me revient. Le cerf-volant. T'as une mémoire, Picot? Comme quelqu'un qui s'éveille et qui s'extrait lentement du hamac de son rêve et qui rentre dans la maison et qui sort les outils et qui trouve du papier, de la colle, de la corde et les baguettes fines et longues coupées au printemps et gardées à sécher 3 mois derrière le poêle sans en parler à personne. Et Picot, étonné, qui venait plein de doutes, rappeler à ce vieil oublieux d'oncle Toby la promesse alors faite, comme ils regardaient tous les deux un cerf-volant anonyme tenu de l'autre côté de la rivière. Je t'en ferai un cet été. Mais les enfants n'oublient pas ce genre de propos, tenus parfois à la légère. Après 2 heures, peut-être, ou plus ou moins, de « Tiens ça, Picot, bouge plus, je colle !» et de « Est-ce qu'il va pouvoir aller plus haut que le grand être ?» et de « J'ai hâte !» et de « Attends, le vent meurt pas ce soir !» Il y eut de suspendu à une poutre d'une vieille maison bourrée de bonheur. Un cerf-volant. 4 triangles de papier jaune, tendus sur 2 baguettes coupées de bonne longueur, une queue faite de 2 longues bandes étroites de papier rouge, tout, un cerf-volant. « Je vais faire du thé. » T'as bien travaillé, toi aussi. Tu prendras bien un verre de lait et un biscuit avec mon oncle. Toujours faire du thé. Moi qui croyais qu'on allait essayer le cerf-volant, toi tu fais du thé. Picot, dit l'oncle en soupirant. Ah! Regarde dehors. C'était sans réplique. Dehors, pas une feuille, pas une herbe ne bouge. La rivière est sans rides. Le miroir. Picot se tait, puis se remet à l'étude de l'appareil. Dans un silence de belle eau, le thé se fait et les biscuits et le lait sont déjà sur la table. Picot s'en sert, mais grignote du bout des dents. Il guette par la fenêtre le moindre signe d'un souffle, d'une émotion de l'air. Soudain, « Mon oncle, ça bouge, il vente, j'ai vu une feuille. » « Picot, notre cerf-volant n'est pas une feuille. Ça prend du vrai vent pour le faire s'enlever, pas un pet de fourmi. » « Je le sais, » dit Picot en riant, « mais c'est bien long. » « Attendre. » « Ah, ce n'est pas seulement long, Picot. C'est bien agréable aussi. »« Oui, c'est plein d'agrément des fois. Attendre. »« Tiens, regarde ton cerf-volant. Crois-tu qu'il a pas hâte, lui aussi ?»« Il attend. »« Tiens, ferme les yeux. »« Bon, tu vas le voir en l'air. Tu le vois ?» Il monte. Le v'là au-dessus de la maison. Oh! Au-dessus du grand être. Tiens, le v'là qui traverse la rivière. C'est le bout du fil. Ramène un peu. Oh, le vent est plus fort. Il pique. Il tombe. Non. Non. Il se reprend. Il remonte. Le voilà rendu au-dessus du petit garçon de ce printemps. Picot, selon le jeu qu'il connaissait, avait fermé les yeux et suivait dans sa tête un cerf-volant aventureux, plus beau que le sien encore, en train de faire le tour du monde. Et il disait, « Continue, mon oncle, et qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» L'oncle Toby prenait son temps, inventait des bourrasques, des sorcières de vent, des arbres, des nuages, et faisait accomplir au cerf-volant de la tente des loupes, des boucles, des huit et des pirouettes, à se demander s'il n'était pas lui-même en train d'y croire. Et monte encore un coup, et déroule du fil, jusqu'à perte de vue. On ne voyait plus qu'un point jaune avec deux traînées rouges. Après la demi-heure peut-être de ce jeu, Pico ouvre les yeux, comme quand on s'éveille, redescendu sur terre, et ne pense même pas de regarder dehors, où le vent de 4 heures s'est levé doucement et remue la lumière. Il est encore là-haut, au secret du plaisir. Aimerais-tu l'essayer? Quelle question! Et quelle hâte en celui qui la pose! Hey, mon oncle, il y a du vent! Il venta, je crois, tous les jours. Ce fut l'été du cerf-volant.
Vous écoutez la Zig pour les kids. Vous êtes sur Studio Zef 91.1 sur Blois et autour, ou alors sur internet studiozef.fr.
Et donc maintenant l'automne, avec une histoire qui s'appelle Le Trésor, et une histoire de carte au trésor qui réserve bien des surprises.
Un conte d'automne. Le Trésor. Je vais aller demander à mon oncle Toby. Et avant que sa mère n'ait eu le temps de protester, de faire un commentaire ou d'émettre un soupçon, on ne sait jamais, d'envoyer un message, Pico était déjà sorti et courait sur le petit chemin qui longe la rivière. Il pensait, les parents n'ont jamais le temps de chercher. Ils sont toujours trop occupés. Tandis que mon oncle, lui, il arriva à bout de souffle. Il reste des jours chauds en septembre, et qui surprennent les habitudes déjà prises depuis la fin d'août. Ajouter un chandail à la tombée du jour, mettre ta casquette, c'est frais dehors, etc. Il faut dire qu'on avait cette fois un septembre doré de fruits mûrs et chargé d'odeurs rares, comme l'arrière-boutique d'un vrai magasin général. Un septembre, on eût dit, déjà prêt à cueillir. Un septembre de terre et bourré de secrets. « Qu'est-ce donc qui presse de même, Pico ?» La question tombait du plafond et d'un oncle juché sur la table, en train de mettre à sa belle lampe, à l'abat-jour bleuté, un crochet neuf. « Assieds-toi, je descends !» Pico n'avait pas encore répondu, constatant que parfois, les oncles, eux-mêmes, peuvent être occupés. Et l'oncle Toby continuait de visser de ses mains un énorme crochet capable de porter 10 lampes comme la sienne, mais qui, une fois posé, le serait pour longtemps. « Allons, qu'est-ce donc qui t'amène, Pico ?»«
Je veux attendre. »«
Bon, j'achève. » La lampe suspendue, la table remise à sa place, on put enfin parler. « Est-ce que c'est vrai, mon oncle, les trésors ?»
Toby prit quand même un moment avant de se lancer sur un pareil sujet.
« Bien sûr, Pico, bien sûr. Mais d'où est-ce que tu me sors ça, là, les trésors ?»«
C'est que j'ai lu dans mon livre que les pirates, autrefois, ils cachaient... »« Oh, les pirates, les corsaires, la flibuste,
la quoi ?»
La...
La, 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 la... C'est loin, tout ça. Pas besoin d'aller chercher si loin. Les trésors sont partout. Ce sont les chercheurs qui manquent.
Justement, dit Pico, d'attaque. Moi, je suis un chercheur. Ah oui? Alors, il y a sûrement un trésor qui t'attend, mon garçon. Oui, vous croyez?
Rien de plus sûr.
Mais où ça, mon oncle? Ah, justement. C'est là qu'on va voir si t'es un chercheur. D'abord, dit Picot d'un ton décidé, il faut un plan. Il avait des lettres sur la question. Pas forcément, dit l'oncle. Mais c'est mieux. Mon oncle, est-ce qu'on pourrait trouver des trésors n'importe où?
Oui, c'est mon avis.
Sans trop s'avancer non plus, mais cela venait. Ici aussi, mon oncle?
Oui, par ici? Sûrement.
On doit pouvoir trouver. En cherchant bien.
Parce qu'à ce moment précis, venait de germer dans la tête de Toby un plan moitié malice et moitié nostalgie. Il ajouta pour lui-même.
Je vais fouiller dans mon grenier ce soir. Et demain, si je l'ai trouvé, on cherchera ensemble.
Trouver quoi?
Oh! Je t'en ai jamais parlé. Un plan.
Ouais.
De mon arrière-grand-oncle. Qui était revenu de la ruée vers l'or, au Klondike, vers 1900, assez bien avant nous autres, certain. Je l'ai revu il y a 2 ans. Ah, tu sais, quand on est tout seul pour chercher. Sur le chemin du retour au souper, Picot regardait déjà les sous-bois et les cailloux, le moindre accident de terrain avec un œil de boucanier. Et cette nuit-là, le sable du sommeil, remué par la hâte, révéla des coffres merveilleux. Pendant que dans un autre rêve, de veille celui-là, un oncle Toby, fébrile, préparait l'aventure, ajustait des pièces, vérifiait les détails et faisait le réel épouser la chimère. 5 pas du gros caillou, à 30 pas à l'ouest, de l'ombre portée par le grand arbre, à 5 heures du soir, il avait trouvé un papier jauni par les années, parfaitement plausible. De l'encre un peu pâlie, puis tracé de sa main un plan digne de Barbe Noire. Le tout déchiré en 3 morceaux qui ne demandaient pas mieux que d'être recollés. Dans ce qu'il appelait sa vieille banque, une tirelire en fer âgée d'un demi-siècle, il mit un 5 pesos rapporté du Mexique en 1937, le 2,5 $ en or de sa grand-mère, 1 $ en argent 1948, 3 5 sous à gros 5 et une pièce d'Angleterre dont il n'avait jamais pu lire si c'était des shillings ou des pence. Dérogeant à ses habitudes les plus chères, il se coucha fort tard ce soir-là. Il ne resterait plus le lendemain qu'enfouir la tirelire avant la venue de Picot, puis à creuser, selon le plan. Le lendemain matin, Picot est à la porte. « Mon oncle, l'avez-vous trouvé? »«
Oui, qui, quoi? Trouver quoi?
Le plan, le plan. »
Bien sûr, je l'ai trouvé, mais c'est bien que trop de bonheur pour chercher les trésors. Il n'est pas 7 heures, Picot. »
Les enfants, déjà, se lèvent tôt. Mais quand ils ont en plus dormi sur de pareils projets,
bon, je me lève. Je déjeune.
L'oncle Toby prenait un temps démesuré pour poser le moindre geste et mit à prendre un petit déjeuner de 10 minutes, une bonne heure. Mais sous le feu nourri de toutes les questions que Picot avait eu le temps d'amasser depuis la veille.
Bon, là, il est fini votre déjeuner?
Silence. L'œil au très loin de la fenêtre. L'oncle, volontiers bavard avec Picot surtout, l'oncle a l'air d'un sphinx.
Picot se tait aussi, au bord de l'inquiétude. Puis lentement, le sphinx tourne la tête vers Picot et, pointant du doigt la table, laisse tomber cinq mots. Avant tout, voyons le plan. Bon, voilà qui augure mieux. L'aventure montre un peu le bout du nez. Picot n'eut pas la permission de suivre l'oncle Toby, mais l'entendit ouvrir et refermer comme une malle au grenier. Puis le vieux parchemin étalé sur la table, les voici chercheurs d'or. 5 pas du gros caillou, 30 pas à l'ouest de l'ombre portée par le grand arbre, à 5 heures du soir. À 5 heures? À 5 heures, Picot. C'était inexorable. Attendre. Attendre encore. Picot eut beau tourner la question, tous les angles disaient 5 heures. Attendre toujours. Et de cerf-volant qui ne veut pas voler cet après-midi, en jardin qu'il faudrait nettoyer parce que le temps désert à la pluie, la journée infinie finit par se finir, et vers 4 heures, Picot dit à sa mère souriante comme lorsqu'on comprend, « Mon oncle Toby m'attend. Il faut être là-bas avant 5 heures. » Et parti, vêtu d'un regard et d'un tricorne. « Il faudrait surtout pas qu'on soit en retard, mon oncle. »« C'est vrai, Picot. T'es pas mal chercheur, sais-tu? T'es pas mal chercheur. » Il partait enfin. Le soleil versait de l'or sur toute chose et il eût fallu garder les yeux fermés pour ne pas penser trésor. On fut rapidement sur place et le plan concordait. Le grand être, avec ses 30 mètres de feuilles éternelles, était complice du soleil et vous projetait une ombre sans équivoque. Le gros caillou tenait sa place avec la discrétion des gens qui savent et qui se taisent. Soudain, Picot s'arrête, frappé de réflexion. « Mon oncle ?»« Oui, comptant déjà les pas, mais il s'arrête à net. « Mon oncle, votre plan, est-ce qu'il est vieux ?»« Oh, en regardant ailleurs quand même. »« Oh, dans les... Ah oui, dans les 50 ans au moins. »« Pourquoi ?»« Mais... Parce que quoi? Parle, Picot! » Ça sentait la nicroche à 30 pas. Parce que mon oncle Toby, chaque mot tombait comme une mauvaise note dans l'examen raté. Parce que le grand être, dans ce temps-là, il n'était pas aussi grand que... Oui, 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 t'as raison, mon Picot, t'as raison. Ouais, ouais. Puis sur un ton décisif, Picot, ton oncle était un vieil imbécile, il faut que tu l'excuses. Mais c'est à lui-même qu'il s'adressait, et c'est de lui-même qu'il riait. Mais Picot, lui, sur sa lancée, balaya ce détail en disant « Il faut refaire les calculs. » Et Penaud, l'oncle emboîta le pas, à la suite d'un pirate obstiné. À bien réfléchir, Picot, ça pourrait être plus difficile que prévu. Suivez-moi, je crois que j'ai compris le plan. Toby mesura les 5 pas. Puis les 30, selon l'estimation fort approximative de la hauteur possible de ce bel arbre-là, un demi-siècle plus tôt. Et l'on creusa, fort sérieusement, à l'endroit le plus plausible selon le plan, interprété par Picot. Et l'on trouva, mon oncle, éberlué, l'oncle dut se rendre
à l'invraisemblable évidence, sous un caillou non indiqué, sous des feuilles pareilles aux autres, dans un sable imprévu. Picot venait de cogner la pelle sur une boîte de métal. « Regardez !» Il triomphait. Il y avait bien là 5 ou 6 pièces de vieille monnaie du pays. Pas d'or, peu d'argent, rien n'est parfait. Seulement côté trésor, ça vous renvoyait sur couf à l'école dans le temps de fermer l'œil. Une toupie de bois qui avait été rouge, et surtout un vieux sac de toile élimé, bourré de 13 merveilles de marbre de 3 grosseurs. Vous savez, ces billes qu'on faisait avant 1940 avec dedans les bigarrures irisantes comme font les framboises dans la crème fraîche. Tout le monde entendit l'histoire du trésor. Maman, papa, le grand-père, la grand-mère et tous les invités pendant 3 mois. Personne ne vit l'oncle Toby, hésitant entre la gêne et la simplicité, entre l'appel et la honte, entre le ridicule et la philosophie, se demander que faire d'un trésor véritable et connu de lui seul. Puis se dire à la fin que de 6 à 8 ans, les enfants ont besoin de plus d'un autre trésor. Le faux trésor de cette histoire dort donc sous 3 mètres d'ombre, plus ou moins, dans un petit bois fort réel. Mais n'allez pas compter sur quelconque Toby pour l'aller déterrer.
Vous écoutez la Zig pour les kids. Vous êtes sur Studio Zef 91.1 sur Blois et autour, ou alors sur internet studiozef.fr.
On termine les 4 saisons de Picot, bien entendu, avec l'hiver et une histoire de renard avec là encore bien des surprises.
Un conte pour l'hiver. Le renard. Noël passé, il ne reste plus que l'hiver. Il faut le prendre comme un chemin vers le printemps, autrement le mois de janvier s'allonge des fois jusqu'à Pâques. Après avoir vérifié au calendrier de l'année neuve combien il lui restait de jours exactement avant les prochaines vacances, et décidé à prendre le meilleur du samedi qui lui restait, Picot mit ses bottes et son anorak, un foulard et des mitaines, et dépassé la porte, se chaussa de raquettes neuves et se dirigea vers le petit bois. Il connaissait bien le chemin depuis mars passé qu'il allait chez l'oncle Toby presque tous les jours. Au début, sa mère était inquiète. 1,5 000 à faire, presque, pour un enfant de 6 ans, quand même. Mais son père avait dit, « C'est bon, il saura marcher. Puis ça donne le temps de penser. » Picot pensait aussi. Faut dire. En passant près du gros caillou, il s'arrêta même pour penser. Ah, si j'étais à la chasse! Je construirais ma cabane ici, près de la source, toujours près de l'eau courante. Et le soir, quand je rentre, un éclair roux venait de vivre dans les aunes, et cela disparaissait dans la bâtie. Une piste, il y a sûrement... Il venait tout juste de la traverser. Il suivit la piste jusque dans le fouillis des racines sous la bâtie et se dit, c'est un renard. Je suis vraiment à la chasse. Et se dépêcha d'arriver chez mon oncle. Le poêle à bois se battait avec l'hiver, de l'eau bouillait. Je me fais un thé. Veux-tu un chocolat? Oui, mais... Oui ou non? Oui, mais mon oncle, c'est que le... Le renard, d'abord, calme-toi. dégraye-toi. Mets un morceau de bois dans mon poêle, puis compte-moi ça tranquillement. Entendu? J'ai vu un renard dans le bois, juste à côté du gros caillou. Il s'est sauvé sous la bâtie. L'oncle Toby resta bouche bée une bonne minute. Versé dans l'émotion, s'exciter, comme il aimait dire, était contraire à sa philosophie. T'es sûr? Sûr, j'ai suivi sa trace après. Tu l'as effacée? Non, j'ai marché à côté. Venez voir. Ils prirent le thé et le chocolat. Un petit peu plus vite que d'habitude, Toby se l'admettait. Mais il se répétait tout haut pour s'excuser à lui-même. Il faut pas se laisser mettre en émoi pour un chien. Ernor, je l'ai vu. C'est bon, Ernor. La trace était toujours là. Fraîche, nette, reconnaissable, évident. On ne pouvait pas s'y tromper. Ton renard, Pico, c'est un chien. Mais l'entêtement et l'assurance de Pico étaient si résistants. Où sa déception était si grande que l'oncle Toby émit malgré lui un doute. Ça ressemble bien à une trace de petit chien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça peut, mais... Quand je l'aurai pris, vous verrez bien que c'est un renard. Tiens, je te savais pas, chasseur. C'est nouveau, ça. Oui, je vais chasser, moi. Puis quand j'aurai pris... Bon, si c'est comme ça, on va retourner chez mon oncle, et mon oncle va te prêter un beau piège, et on va venir le temps, ensemble. D'accord. Ils repartirent vers la maison de l'oncle. Toby prit son piège le moins puissant, un numéro 5. Un morceau de lard rance comme à peau, et ils tendirent juste à l'entrée de la bâtie. Pendant toute l'opération, Pico parlait, mais comme pour lui-même, ils vont voir si je suis chasseur. Je vais porter la queue sur mon chapeau. Ils vont voir. Sans fin, Toby, sans rire, attachait la chaîne du piège à une grosse racine, disposait des feuilles, ouvrait et tendait le piège, posait la paix, avec le geste sûr de celui qui a déjà fait la chasse. S'il repasse ici, on peut pas le manquer. Puis chacun rentra chez soi. Pico, chasseur comme jamais. L'oncle Toby, inquiet et pour cause. Si jamais on découvrait au village qu'il avait tendu ce piège, il faudrait long pour expliquer. Au souper, le papa de Pico demanda « Qu'est-ce que t'as fait de toi aujourd'hui, Pico ?» La chasse. Tiens, t'es chasseur maintenant? Oui, on a tendu un piège. Oh! On en resta là. Pico finit par se coucher, tard. Et rêva qu'il se battait avec un renard qui avait une crinière de lion et la queue d'un tigre. Et s'éveilla au moment où, avec des hurlements à faire frémir un Iroquois, la bête s'échappait le piège à la patte en laissant comme piste une traînée de sang. Ça hurlait dans le petit bois. Il s'habilla donc, sans faire de bruit, et partit vers la passe du caillou. L'oncle Toby, qui avait de bonnes raisons d'avoir l'œil sur les événements, y était déjà. « Viens voir ton or, Pico, sans ironie blessante. Mais sans complaisance non plus. Mais non, c'est le chien de Monsieur Carrière. Penses-tu, jaune de même? On dirait bien un renard.
Non. Il n'y a rien de drôle. C'est le chien de M. Carrière, je le reconnais. Il n'y avait plus à rire. Le pauvre Tilou hurlait à faire pleurer le gros caillou. L'oncle Toby insista pourtant, en faisant taire le chien avec des caresses. « T'es sûr que tu veux pas le tuer puis porter sa queue à ton chapeau? Il a une belle fourrure! C'est comme du renard! »« Sûr. Qu'est-ce qu'on fait? » Pico était furieux maintenant. Il pleurait à demi. Qu'est-ce qu'on fait, Pico? Mais il faut déprendre Tilou, puis soigner sa patte, puis tout de suite. Ce à quoi l'oncle Toby, d'ailleurs, voyait déjà. Ils emmenèrent le chien chez lui. Après l'avoir soigné, nourri de viande, de lait, dorloté comme il n'avait jamais été, peut-être. Le pauvre Tilou posait encore un œil inquiet sur la bizarrerie des humains. Il emboîtait par politesse. « Bon, on va se coucher, hein, Pico ?»« Oui. »« Es-tu toujours chasseur ?» Mais l'oncle Toby regretta cette dernière taquinerie. Sans le regarder, Pico répondit, la tête basse, « Non, la chasse, c'est fini. » Le lendemain, sans s'en savoir le premier mot, le papa de Pico lui demanda avant son départ pour l'école, « Puis la chasse, Pico! Toujours ça va? » « Non. Je serai pas chasseur. »«
Tiens, explique-moi ça. » »«
Tu demanderas à mon oncle Toby. » Et il s'en fut à l'école. Pico fut une semaine avant de retourner chez l'oncle. Il ne fut plus jamais question de renard entre eux.
Et bien voilà, c'était les 4 saisons de Pico par Gilles Vigneault. En ce qui concerne Graines de lecteurs, eh bien, je vous invite à vous informer auprès des centres sociaux de votre commune ou alors auprès des médiathèques, bibliothèques, puisque c'est là que ça va se passer en général. Il y en a un petit peu partout dans tout le département du Loir-et-Cher. Eh bien, une fois de plus, bonne année à tous.
Une tempête, mon Zeus, ça va être la fête, y'aura pas d'autobus pour aller à l'école, gna 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 gna. On va sûrement faire un fort dehors avec des tunnels pis des remparts. Je téléphone à mon voisin, le petit Julien.
Allô Julien, c'est moi, viens-tu faire un fort dans ma cour? On va se faire un bonhomme de neige, hein? Ouais, viens donc faire un petit tour. Ah, tu peux pas, ton petit frère est là, c'est toi le gardien.
Aujourd'hui, une tempête, mon Zeus, ça va être la fête, il n'y aura pas d'autobus pour aller à l'école, gna 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 gna. C'est pas grave, je vais jouer au hockey, je profite de ma journée de congé, je téléphone à mon copain qui habite pas très loin.
Allô, copain, c'est moi, ça tente-tu d'aller patiner au village, ils ont tout déblayé, enfin gagné notre coupe Stanley. Oh, tu peux pas, ta mère veut pas, faut que tu fasses le ménage, t'es de poirée du rattrapage.
Oh, aujourd'hui y a une tempête, mon Zeus. Ça va être la fête, y'aura pas d'autobus pour aller à l'école. Gna, 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 gna. Bon, ben d'abord, j'irai glisser. On va faire des courses en petit buggy. Je téléphone à mon cousin qui habite sur le coin.
Allô, cousin, c'est moi, ça tente-tu de venir en Crazy Carpet? On va rire comme des fous, on va s'inventer des pirouettes. Ah, tu peux pas, car tu t'en vas, t'as rendez-vous après-midi pour des plombages sur le carré. Oh.
Aujourd'hui, il y a une tempête, mon sus, ça va être la fête, y'aura pas d'autobus pour aller à l'école, gna 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 gna. Je vais regarder la télévision, mais les jours de congé, y'a jamais rien de bon. Je pense que j'ai hâte à demain parce que je fais rien. À 7h15, je sortirai dehors pour l'autobus de 7h30. À 7h15, je sortirai dehors pour l'autobus rempli d'amis. À 7h15, je sortirai dehors pour l'autobus du désennui. Aujourd'hui, y'a pas de tempête, mon Zeus. Ça va être la fête, il va avoir l'autobus pour aller à l'école. Gna, gna, gna.
Sur mon sapin, le petit lac est tout gelé, tout gelé, tout gelé. Sur mon cul demain matin, je chausserai mes patins et je mettrai mon bonnet pour aller patiner. Trop droit que je fasse attention, des porte-pieds sur les glaçons. Dans la couche bien épaisse, attention les fesses. Trop droit que je fasse attention, des porte-pieds sur les glaçons. Dans la couche bien épaisse, attention les fesses. Il neige dans mon jardin, y en a plein sur mon sapin. Le petit lac est tout gelé, tout gelé, tout gelé. Sûrement que demain matin, je chausserai mes patins et je mettrai mon bonnet pour aller patiner. Faudra que je me méfie de pas tomber devant les filles. Elles vont se moquer de moi et moi j'aime pas ça. Faudra que je me méfie de pas tomber devant les filles. Elles vont se moquer de moi et moi j'aime pas ça. Il neige dans mon jardin, y en a plein sur mon sapin. Le petit lac est tout gelé, tout gelé, tout gelé. Sûrement que demain matin, je chausserai mes patins et je mettrai mon poney pour aller patiner. J'irai peut-être avec Pépé, c'est là qu'on va se bidonner. Il patine comme un crapaud qui fait du vélo. J'irai peut-être avec Pépé, c'est là qu'on va se bidonner. Il patine comme un crapaud qui fait du vélo. Il neige dans mon jardin, il y en a plein sur mon sapin. Le petit lac est tout gelé, tout gelé, tout gelé. Sûrement que demain matin, je chausserai mes patins et je mettrai mon poney pour aller patiner. Il neige dans mon jardin, il y en a plein sur mon sapin. Le petit lac est tout gelé, tout gelé, tout gelé. Sûrement que demain matin, je chausserai les patins et je mettrai mon poney pour aller patiner.
Faut pincer son nez et Soufflez très fort, plus fort, encore. Mon nez coule, quelle histoire! Mon nez coule vite, un mouchoir. Mon nez coule, quelle histoire! Mon nez coule vite, un mouchoir. Mon nez coule, quelle histoire! Mon nez coule vite, un mouchoir. Mon nez coule, quelle histoire! Mon nez coule vite, un mouchoir. Mon nez coule...